Henri de Régnier, La double maîtresse, première partie, chapitre 11. Nicolas de Galando attendait dans l'avant-cour l'arrivée de Julie. De temps à autre, il tirait sa montre et la portait à son oreille pour voir si elle marchait bien, car l'attente lui paraissait longue. Aucun bruit ne troublait la cour silencieuse. L'herbe y poussait doucement au soleil, entre les petits pavés de grès. Ces pavés attiraient pour la première fois l'attention de Nicolas. Ils étaient de couleurs diverses, beaucoup gris, quelques-uns bleuâtres, et ça et là de presque rose. Dans un coin, deux pigeons picoraient. Nicolas, dans sa promenade, s'en approchait. Alors, il se levait lourdement et passait ras au-dessus de sa tête, avec un gros bruit d'ailes, et allait se poser dans le coin opposé, où le retour de ses pas les troublait de nouveau. Et ainsi, jusqu'à ce que, dérangés, ils s'envolassent pour de bon. Nicolas, resté seul dans la cour, se tint debout, immobile et comme engourdi de chaleur. Enfin, un claquement de fouet et un grondement de roues annoncèrent la venue du carrosse. Monsieur Dufresnay embrassa tendrement Julie et Nicolas se trouva seul en face d'elle. Les deux pigeons qui étaient revenus se poser sur le toit des communs roucoulaient doucement. Nicolas ne reconnaissait pas sa cousine dans cette belle personne toute rieuse, hardie et familière qui se tenait devant lui avec son teint frais, sa bouche charnue, son corsage entrouvert sur la naissance d'une gorge attrayante. Il ne retrouvait plus là la petite pleurnicheuse de l'an dernier. Sa timidité ordinaire devint un trouble évident et il demeurait interloqué et bredouillant. Il lui expliquait que Madame de Galando se trouvait un peu incommodée et il s'affligeait d'avoir laissé repartir M. Dufresnay sans lui communiquer les excuses de ne pas le recevoir, dont sa mère l'avait chargé envers lui. Madame de Galando était en effet très vieillie et assez mal portante. Un marchand d'Orvietan, introduit il y a quelques mois au château par une des vieilles servantes qui l'avait guérie d'un cor au pied, avait vendu à Madame de Galando des poudres soi-disant merveilleuses et universelles à tous les maux, dont l'effet fâcheux n'était point étranger aux fatigues que ressentait depuis la bonne dame. Aussi se trouvait-elle trop occupée d'elle-même pour pouvoir prendre garde à Julie. Elle ne vit donc guère dans la nouvelle beauté de sa nièce que de la bonne santé. Elle remarqua l'excellente couleur de son visage et n'en distingua un point les traits charmants. L'heureuse proportion de sa taille lui sembla un effet de la croissance. Elle n'en reconnut pas la grâce voluptueuse. Par cette bonne conformation corporelle, elle la jugea propre à la vie sans la deviner prête à l'amour. Et, une fois la revue faite et quelques observations assez aigres sur la forme de ses vêtements et le goût de sa parure, elle remit ses lunettes dans l'étui, recroisa ses mains sur son fichu et continua à se tâter le pouls et à tirer la langue dans un petit miroir qu'on disposait à sa portée pour cet usage. On faisait silence autour d'elle. Julie, assise sur une chaise, regardait alternativement chacune de ses mains qu'elle avait fines et potelées. Nicolas, sur une autre chaise en vis-à-vis, faisait une assez piteuse figure, ne sachant trop comment se tenir, puis finit par gagner la porte sur la pointe des pieds pendant que sa mère faisait sa sieste accoutumée. Julie, qui n'osait quitter la place, eut tout le temps de songer à l'ennui qui l'attendait à Pontaubel. À quoi allait-elle pouvoir s'occuper? Et elle se prenait à penser qu'après tout, son cousin Nicolas n'était pas déjà si mal tourné. Il avait juste 30 ans, le corps maigre, les jambes hautes. Il portait un habit de couleur de tabac d'Espagne, à basque un peu trop longue et trop large pour lui. Avec cela, un visage osseux et doux, la figure régulière et simple, et au demeurant, point laid du tout. Le lendemain, Nicolas se montra vraiment l'homme le plus embarrassé du monde. Il avait mal dormi et se sentait tout déconcerté par la présence de Julie. D'autant plus qu'il était, en quoi que ce fût, lent à se résoudre. Le vide de la vie habitue, faute d'événements, à réfléchir longuement, même au moindre. L'indécision devient un passe-temps, l'incertitude une sorte de jeu solitaire. Aussi soupesait-il toutes circonstances avant de se décider à les considérer de telle ou telle façon. Cette minutie d'esprit n'avait, il faut le dire, pas même l'avantage que le choix fait, il s'y tint fermement. Il restait quand même incertain. De telle sorte que Nicolas, à 30 ans, se trouvait l'homme le plus faible, non seulement vis-à-vis des autres, mais encore en face de lui-même. De mettre, par exemple, des bas chinés ou des bas blancs, constituait pour lui une alternative qui le tenait de longs moments en balance. On l'avait vu rentrer pour changer la paire qu'il venait d'enfiler, et, comme de plus il était distrait, il lui arrivait de ressortir avec aux jambes un bas chiné et un bas blanc. Il était en pleine discussion sur la manière dont il se comporterait avec Julie quand il la rencontra au jardin. La rencontre se fit juste au milieu de son débat, si bien que, pris au dépourvu, il salua cérémonieusement sa cousine et s'esquiva à grands enjambées. Ce hasard régla son attitude et les jours qui suivirent, il évita de se trouver seul à seul avec Julie et les passa enfermés à clé dans la bibliothèque. Les raisons du trouble de Nicolas devant Mademoiselle de Mauceuil tenaient à diverses causes. La principale était le changement de visage qui faisait d'elle pour lui une autre personne. Les sentiments qu'il conservait de la fillette d'hier n'allaient plus à la jeune fille d'aujourd'hui. Il ne savait comment ni de quoi lui parler, ni par quoi remplacer les jeux de jadis ou les leçons de l'an dernier, et il restait en suspens, attiré vers elle par leur ancienne camaraderie et éloigné d'elle par le défaut de ce qui eût pu y suppléer. À cela s'ajoutait une peur confuse. L'abbé Hubertet, en quittant Nicolas, avait cru devoir l'avertir de certains dangers qu'il rencontrerait peut-être sur sa route. Certes, avec mesure et réserve, il avait donné à Nicolas l'idée qu'il y a un péril à la société des femmes, et Nicolas, sans avoir commis la faute, n'ignorait pas complètement l'existence du péché. Pourtant, peu à peu, il se rassura et sortit de sa cachette. La droite Julie prit grand soin de ne faire aucune attention à son cousin. Elle comptait sur sa jolie figure. Le gros porte-bise lui en avait maintes fois peint les charmes et vanté l'attrait, et elle en attendait, avec confiance, les effets inévitables. Mais dans l'attente, elle s'ennuyait. Nicolas tardait à s'apprivoiser. Ce fut donc elle qui brusqua les choses. Un après-midi, elle aperçut son cousin assis sur le banc où autrefois ils se rencontraient d'habitude. Nicolas paraissait réfléchir profondément et traçait des ronds du bout de sa canne. Julie se rappela que pendant les repas, il la regardait à la dérobée et, ce matin, plusieurs fois à table, elle avait surpris ses yeux. Elle était charmante ce jour-là. Madame de Galando lui avait acheté plusieurs pièces d'étoffe communes, mais claires et de couleur gaie. Les vieilles servantes y avaient taillé une robe à l'ancienne mode, comme elle en portait les autres années, mais qu'elle avait rajustée à sa façon. Dans cette bonne toile à fleurs, avec ses cheveux simplement noués, elle ressemblait beaucoup à la petite Julie d'autrefois, et elle reprit son pas de fillette pour se glisser sans être vue derrière le banc où rêvait Nicolas. Elle entra dans le plan d'arbre. Le lierre les enguirlandait et tapissait le sol de ses vertes feuilles en cœur. L'ouverture du treillage était agrandie. Elle passa. Elle se tenait debout derrière le dos de Nicolas, retenant son souffle. Tout à coup, en se baissant, elle lui renversa la tête et lui posa ses deux mains sur les yeux. Puis, elle enjamba le banc et, s'asseyant sur les genoux de Nicolas abasourdi, elle lui mit les bras au cou et l'embrassa longuement sur les deux joues en lui disant à l'oreille « Comme tu es bête, mon pauvre Nicolas !» Ce furent pendant quelques jours des bavardages infinis. De même qu'elle avait joué à la demoiselle avec le gros porte-bise, elle joua à la petite fille avec le maigre Nicolas. Ils reprirent leur cousinage interrompu et leur camaraderie de jadis, avec cette différence qu'elle apportait à ses jeux et à ses étourderies toutes les ressources de la plus dangereuse coquetterie sous les apparences de la plus franche naïveté. Quoi qu'il en fût, Nicolas se retrouva comme par le passé au service du caprice de Julie. Au bout de quelques semaines, elle eut fait de lui son véritable esclave. Il se laissait aller béatement où la jeune fille le voulait conduire et éprouvait pour elle une admiration silencieuse. Dès qu'elle parlait, il la regardait bouche ouverte et main pendante. Elle savait maintenant son pouvoir et en abusait, amusée de voir son grand cousin stupéfait et honteux de ce qu'elle obtenait de lui. Comme elle était devenue gourmande, il volait pour elle les meilleurs fruits des espaliers. Les pêches commençaient à donner. Madame de Galando les envoyait soigneusement vendre à la ville, ne réservant que le nécessaire à la table de Pontaubel. Nicolas guettait les paniers à l'office avant qu'ils partissent pour le marché. Le vieux jardinier Hilaire, qui aimait beaucoup son jeune maître et qui, tout en ratissant les allées, avait bien remarqué quelque chose du manège de Monsieur Nicolas et de Mademoiselle Julie, mettait les plus beaux fruits sur le dessus et riait de ses vieilles dents ébréchées de ne plus les retrouver là. Julie y mordait de sa belle bouche rouge et elle aimait à s'y rafraîchir. Elle était coureuse et turbulente et ne laissait pas un instant respirer Nicolas. Il se poursuivait à perdre haleine par les allées et Julie trouvait à ses courses et à ses poursuites le prétexte de se laisser tomber dans les bras de son cousin. Elle y tombait, toute chaude, essoufflée et haletante, ses petits seins palpitaient sous son corsage à fleurettes. Nicolas la recevait d'abord avec embarras, puis avec empressement. Il sentait monter d'elle une moite odeur de peau, de linge et de jeunesse. Quelquefois, au contraire, elle se plaignait de fatigue et de langueur, feignait de ne pouvoir faire un pas. Il fallait alors qu'il la soutînt. Pour l'aider, il touchait sa taille souple. On avançait péniblement. Alors, Nicolas proposait de la porter jusqu'au banc. Elle acceptait en minaudant, se faisait lourde, pesait de toute sa chair sentie à travers l'étoffe, de tout son corps inerte et comme engourdi de sommeil. Le temps de la canicule qui survint et fut fort chaud mit un arrêt à leurs ébats. Il fallut trouver des jeux plus tranquilles. Et Julie en inventa de plus voluptueux. Elle se fit lasse, tendre et nonchalante. Souvent, il passait l'après-midi sous les arbres, étendu sur le tapis de lierre. Il rôdait là une odeur amère et forte. Julie finissait par s'endormir et Nicolas regardait de tout près son joli visage au repos, où il n'y avait plus ni malice, ni hardiesse, mais seulement la fraîcheur toute simple de la plus belle et de la plus délicate jeunesse. Enfin, la chaleur, tout en restant forte, se relâcha un peu dans les jours qui suivirent. Nicolas avait passé une partie de l'après-midi avec sa mère. Madame de Galando se trouvait assez mal ce jour-là, et elle avait dû garder son fils auprès d'elle pour lui dicter une lettre à Monsieur Levasseur, le notaire, au sujet de baux à renouveler. Ces dictées qui avaient lieu, quelquefois, excédaient Nicolas qui ne comprenait rien au jargon des affaires dont sa mère l'avait avec soin tenu à l'écart. Vers 4 heures, pourtant, la besogne achevée, il put sortir pour rejoindre Julie, qui devait l'attendre près du miroir d'eau ou du petit bassin. Elle y était, et Nicolas, en pensant au vieil Hilaire, frémit de la voir, car, en venant, elle avait dû dévaster la roseraie à en juger par le nombre de roses qui jonchaient la terre à ses pieds. Il y en avait de pourpre et de rouge, des blanches, doubles ou simples, et d'énormes, couleur de soufre. Elle formait devant elle un amas embaumé, où elle les prenait pour les joindre en une couronne. Quelques-unes, trop épanouies, s'effeuillaient, et elle en réunissait les pétales dans une corbeille de joncs, où elle les respirait en souriant. Parfois, elle en lançait une poignée au visage de Nicolas, assis auprès d'elle, et qui, d'une pichenette, en débarrassait la dentelle de sa manchette. Quand elle eut fini, elle se mit doucement à ôter ses souliers. Nicolas la regardait faire avec étonnement. Ses pieds apparurent hors de ses bas enlevés. Ils étaient petits et blancs, et quand, debout, elle reposa sur leur appui, une mince veine se gonfla bleu sur la chair rosée. Nicolas les admirait silencieusement. Ils étaient frémissants et finement nerveux, un peu recroquevillés au contact du sable. L'ongle de l'orteil ressemblait à une petite coquille polie. Une fois debout, elle troussa en rond sa jupe et Nicolas vit ses jambes nues. Le mollet, rebondi, supportait un genou lisse. Au-dessus du genou, la chair de la cuisse se montrait, plus blanche encore, déjà secrète. Elle agissait avec une impudeur tranquille et souriante. Grâce aux pluies abondantes de l'hiver et du printemps, il restait un peu d'eau dans le bassin. Le fond en était tapissé d'une mousse verte et chatouilleuse. Julie enjamba la margelle. Elle marchait dans l'eau avec précaution pour ne pas la troubler. D'une main, elle tenait la couronne de roses et de l'autre la corbeille de pétales. Arrivée auprès du triton, elle grimpa lestement sur le socle de rocaille. Le dieu marin se dressait verdâtre et musculeux. Son bras portait à sa bouche la conque torse. Il semblait rire, le buste hardi, les joues gonflées. Julie posa sur la tête de la statue la couronne fleurie. La beauté des roses rajeunit le bronze sombre. À poignée, Mademoiselle de Mausseuil jetait les pétales de la corbeille. Ils s'éparpillèrent et jonchèrent le fluide miroir, puis les feuilles dociles, prises au mouvement secret qui anime les ondes les plus stagnantes, se réunirent et, par leurs entrelacs, formèrent une arabesque mouvante. Comme le soir venait, il montait du bassin une odeur d'eau crépusculaire et de roses savoureuses, mais Nicolas de Galando ne voyait que Julie, qui, tenant le triton par sa main de métal, se penchait sur le reflet de la double image où elle s'apercevait debout sur la croupe écailleuse du monstre qui semblait l'enlever, rieuse et demi-nue, au bruit muet de sa conque triomphale.